Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molinma.
La RDC et le monde viennent de perdre un savant et un pasteur. C'est par ces mots que Mgr Sylvain Lunyanyankole, président provincial du synode Kassa-Oriental et évêque de l'église du Christ au Congo, regrette la disparition de Mgr Tarsis Tshibangu, décédé hier à l'âge de 88 ans ici à Kinshasa. Et puis la concrétisation du projet de barrage de Katende, c'est l'un des grands projets que le Kassai Central attend la concrétisation avec l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi qui est attendu à Kananga. Enfin, nous allons recevoir dans cette édition un artiste humoriste. Lui, c'est Christian El Kaboué. Il nous parlera des activités culturelles humoristiques réalisées en ville de Béni pendant cette année, les contraintes ainsi que les projets futurs. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Dès hier mercredi à Kinshasa, de Mgr Tarsis Tshibangu Tshishiku, évêque émérite à 88 ans. La RDC et le monde viennent de perdre un savant et un pasteur. Ces paroles sont de Mgr Sylvain Lunyanyankole, président provincial du synode de Kassa Oriental et évêque de l'Église du Christ au Congo. Il a rendu ce témoignage de l'illustre disparu hier à Radio Okapi, quelques heures après l'annonce de sa disparition. On écoute Mgr Sylvain Lunyanyankole au micro d'Esther Ndalafina.
Un homme de l'Église, mais aussi un homme de science. Tshibangu Tshishiku a dirigé le diocèse de Mbujimayi avec brio. Il est l'auteur de beaucoup de paroisses sur son règne que le diocèse a atteint son apogée. Homme de science, le recteur magnifique, le président du conseil d'administration des universités en République démocratique du Congo, Tshibangu Tshishiku, a innové. Il est l'un des ténors de la théologie africaine. C'est par Tshibangu Tshishiku et tant d'autres que l'Afrique a commencé à prendre conscience qu'on nous a volé l'héritage non africain, l'héritage africain qui se trouve dans la Bible. Vraiment, cet homme de science, un professeur de haute facture, je pense que l'Église vient de connaître un grand trou et le monde scientifique mêmement. S'il plaît à Dieu de tuer les larmes de l'Église, je présente mes condoléances à toute l'Église catholique, mais surtout à Monseigneur l'évêque Emmanuel Cassanda et tous ceux qui lui sont proches. Et le Seigneur le retire des larmes au nom de Jésus-Christ.
Pour rappel, Mgr Tarsis Tshibangu est ordonné prêtre en 1959 au grand séminaire de Moba. Prélat de sa sainteté le pape Paul VI et vice-recteur de l'université Lovanium, il devient évêque auxiliaire de Kinshasa en 1970. Recteur de l'université Lovanium de 1967 à 1971, il est recteur de l'université nationale du Zaïre de 1971 à 1981 et depuis président du conseil d'administration des universités de l'ex-Zaïre. Il a aussi travaillé comme évêque de Mbujimayi de 1992 à 2009. Bon repos, maître. Rentrée académique hypothétique à l'Université pédagogique nationale UPN à Kinshasa, prévue pour le 5 janvier 2022. Cette rentrée se fera sans le professeur qui ont décidé d'entrer en grève sèche à cette date-là. Dans une interview accordée ce mercredi à Radio Okapi, le président de l'association des professeurs de l'UPN explique que cette nouvelle grève, décidée à l'issue d'une assemblée générale lundi dernier, est motivée par plusieurs griefs. Il regrette également le fait que le budget 2022 alloué aux revenus des professeurs a été élaboré sans impliquer ce dernier. Professeur Emery Iyolo est joint par Lech Walassa.
Le gouvernement n'a pas répondu à nos revendications. Nous avons trois points principaux pour l'activité des professeurs. Il y a les dossiers logement et la prise en charge des professeurs pour la santé. De ces trois dossiers, rien n'a eu comme réponse. Il faut que le gouvernement puisse réagir pour que les professeurs travaillent normalement.
Dans vos revendications, vous parlez souvent de la perte de pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez parcouru les budgets 2022 pour voir?
Le budget 2022, c'est notre ministère de tutelle qui pouvait nous les donner, mais le ministre a fait les choses de sa manière. Jusque-là, nous ne savons pas combien il a demandé pour un professeur. Ben, ce n'est pas un acquis. Les professeurs ont des enfants, les professeurs ont une famille. fille. Le professeur a d'autres choses à faire aussi.
Et puis, en plus bref, le Premier ministre a suspendu jusqu'à nouvel ordre la désignation et la nomination des membres des comités de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire tels que décidés par le ministre de l'ESU dans son arrêté du 23 décembre dernier. Cette décision du Premier ministre est contenue dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et signé par son directeur de cabinet. Elle est prise, selon le communiqué, à la suite des agitations constatées dans les milieux universitaires après la publication du dit arrêté, mais aussi afin de permettre une dernière harmonisation de vues avec le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. En conséquence, conclut le communiqué, toute remise et reprise entre les membres sortants et entrants des comités de gestion concernés par les dits arrêtés est reportée. Au Maïndombe, territoire de Kwamutu, les enseignants du secteur public de la sous-division de Kwamutu 2 dans la division provinciale de l'EPST Maïndombe 2 passent les festivités de fin d'année dans la galère à cause de l'impaiement de 3 mois de salaire dont ils sont victimes. Il s'agit du mois d'octobre, de novembre et celui de décembre courant. Ils sont montés au créneau ce mercredi et sollicitent l'implication des autorités des tutelles afin qu'ils soient payés. Pour sa part, le député provincial David Bissaka, élu de ce territoire, plaide aussi en faveur de ses enseignants afin qu'ils soient payés et qu'ils puissent passer ces fêtes comme il se doit. Irène Beaumont.
À en croire le préfet de l'Institut Mubanzila, situé au village Etumbananguaka vers Ngandabangala et porte-parole des circonstances, tous les enseignants du secteur public de la sous-division de Kwamutu D, axe routier, n'ont pas encore reçu leur salaire du mois d'octobre dernier, de novembre et de décembre. Situation qui, selon Jacques Kawata, les empêche de pourvoir aux besoins de leur famille pour bien passer les festivités de fin d'année.
Demeurons 3 mois impayés. Nous ne savons pas comment traiter. Nous sommes des responsables. Nous voici pendant la période des fêtes. On ne sait pas comment faut-il nettoyer avec les enfants. Les enseignants ne se retrouvent pas. Où faut-il aller?
Préoccupé par la galère de ces enseignants pendant ces fêtes de nouvel an, le député provincial David Bissaka, élu de Kwamutu, plaide en leur faveur.
Il y a de cela 100 jours, plus de 300 écoles. Les enseignants coupent vraiment dans la misère. Le plus terrible aujourd'hui. Mon plaidoyer, c'est demander aux autorités si on pouvait faire quelque chose afin qu'avant les 30, ces enseignants soient payés. Que ces enseignants-là fêtent aussi.
Notez qu'il n'y aura pas rentrée de classe en janvier si ces enseignants ne reçoivent pas ces 3 mois de salaire avant la fin de ce mois, a laissé entendre Jacques Kawata. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Vous écoutez les journaux sur Radio Okapi, les 7h07 dans la commune de Nganza, dans la ville de Gbadolite. 1 heure de plus dans la commune de Nganza. Nous sommes dans la ville de Kananga. Effectivement, dans cette ville, Kananga, qui est dans la fièvre de l'attente de l'arrivée du chef de l'État, parmi les grands projets dont le Kasaï central veut la concrétisation, figure le barrage hydroélectrique de Katende. La population qui tient à avoir l'électricité avec cette centrale dit attendre voir le chef de l'État s'impliquer pour la relance et le finissage des travaux. François Kadima revient sur l'historique de ce barrage dans ses reportages.
La centrale hydroélectrique de Katene, située au Kasaï central, remonte à quelques années avant l'indépendance sous l'initiative de Belges. Le pays colonisateur de la Belgique, qui planifiait rendre le Luabourg la capitale de la RDC, et parce qu'étant au centre du pays, avait le souci d'électrifier la zone et faire tourner des micro-industries. Le projet s'arrête et est mis dans le tiroir après l'indépendance et les départs de Belges. C'est le fait président Mobutu qui va ramener le projet sur la table en décidant de relancer la machine. Mais, le premier travaux réalisés sur les sites ont été l'œuvre des contributions des fils du Kasaï, avec à leur tête le feu Monseigneur Martin Bakolé. Ces travaux n'ont pas fait long feu. C'est avec l'avènement de l'ancien président Joseph Kabila au pouvoir que le projet refait surface. Le gouvernement indien est associé. Les accords sont signés, les matériels sont acheminés sur les sites et les travaux commencent en 2012. Ils vont s'arrêter avec l'avènement du phénomène Kamuina Sapu qui avait comme épicentre les territoires de Dibaya où se trouve le site. Les Indiens décident de partir et les matériels encore ailleurs sont bloqués. Le député provincial Mathieu Ntolo, qui a fait partie des notables ayant plaidé pour que les matériels se trouvant à Lubumbashi soient acheminés sur les sites, espère voir le chef de l'État s'impliquer pour la relance des travaux de chute Katende. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Académie de la province du Tanganyika, la période des grandes festivités doit rimer avec la sécurité des populations. Le maire de la ville s'exprime ainsi pour assurer de manière particulière la protection des maisons de messagerie qui facilitent les transactions monétaires pendant cette période des fêtes. Toutes ces maisons sont tenues de fermer leurs activités à partir des 18h locales. La mesure ne prévoit pas de sanctions aux contrevenants. Je vous propose d'écouter le maire de la ville, Gédéon Kakuji Kalama, au micro de François-Xavier Mibé.
Il faut prendre des précautions parce que j'ai constaté ces derniers temps dans la ville, c'est à partir de 19h, les cambriolets vont dévaliser surtout les maisons de messagerie, M-Pesa, Orange Money et ainsi de suite. Pendant cette période que les gens observent quand même quelques mesures de prudence, tout au plus tard à 18h, ils ferment leurs maisons parce que déjà il y a des actions qui sont menées. Nous avons déjà des patrouilleurs qui doivent faire et des patrouilles diurnes et nocturnes. Et aussi, je continue à les exhorter à éviter la thésaurisation. Des fois, on garde beaucoup de montants importants dans une maisonnette. C'est bien le moment de les inviter à ouvrir les comptes en banque. Ils n'utilisent que l'argent dont ils ont besoin et la journée. Même à 16h, ils peuvent aller reverser l'argent à la banque et récupérer demain. Qu'ils se mettent vraiment à l'abri de tout ce qu'ils veulent procéder par la loi du moindre effort.
Il est 8h11 à Mississi, nous sommes au sud Kivu. Même heure à Masisi, dans le nord Kivu. Effectivement, dans la province du nord Kivu, cette province traverse depuis plus de 20 ans maintenant des situations particulièrement difficiles liées à l'insécurité et aux catastrophes naturelles. Le contexte actuel marqué par des massacres des civils, l'errance des populations déplacées et la présence de groupes armés ne font qu'accentuer la souffrance de la population du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est le constat fait par la thématique Bonne gouvernance de la société civile du Nord Kivu. Cette structure sollicite des autorités nationales des allègements fiscaux en faveur de ces deux provinces meurtrières par les guerres afin d'atténuer cette souffrance pour l'année 2022. Étienne Kambalé, point focal de cette structure, l'est dit au micro de Sifa Maguro.
Les contextes sombres que la population du Nord Kivu traverse, le président de la République a estimé judicieux de déclarer la province du Nord Kivu en état de siège. Vu la situation critique que la population du Nord Kivu continue à traverser, l'Ituri, les populations continuent à payer les taxes et impôts comme les autres provinces qui sont en paix. Il est inacceptable que les provinces à paix payent comme les provinces qui sont en guerre. Raison pour laquelle nous demandons au Premier ministre, au ministre de l'Économie, au ministre des Finances de déclarer ces entités, le Nord Kivu et l'Ituri, des provinces sinistrées, pour qu'ils puissent bénéficier des allègements fiscaux et permettre à la population de respirer tant soit peu et de nouer les deux bouts du mois sans beaucoup de difficultés à la plupart des familles.
Rappelons que cette préoccupation a été plusieurs fois formulée par les opérateurs économiques dans le Grand Nord ainsi que d'autres entités du Nord Kivu. Dans la province du Maniema, c'est sous une note de satisfaction que la direction générale des recettes du Maniema, Degerma, termine l'année 2021. Son directeur général l'a dit à votre radio, mercredi 29 décembre. Maître Sadiki Youm Alphonse justifie cette note de satisfaction par la volonté de l'autorité provinciale de pouvoir accorder à cette régie financière sa rétrocession. Sadiki Youm Alphonse explique au micro de Florence Kizalunga.
La Degerma telle que elle fonctionne depuis le début de l'année, vous l'avez déjà constaté que il y a beaucoup de difficultés à tous les niveaux. Mais sinon, avec l'avènement de son excellence Idrissa Mangala à la tête de la province, il y a des changements qui s'opèrent de jour au jour et qui sont palpables. Les agents qui, depuis bien longtemps, ne bénéficiaient pas de leur salaire, de leur prime, commencent à les bénéficier sans beaucoup de peine parce qu'il y a eu une bonne foi de l'autorité où on nous a accordé la rétrocession de l'énivellement à la banque. Et cela, c'est à partir de sa volonté de connaître les 20% qui doivent nous servir à partir des recettes produites. Et à cela, nous voudrions peut-être promettre de notre part que nous sommes engagés à adhérer à son idéologie, à sa philosophie, où on doit travailler pour l'intérêt de la province et non pour notre intérêt uniquement.
8h14 à Kisangani, 7h14 ici à Kingasani. Le professeur Théophile Mbemba quitte le PPRD parti de l'ancien président Joseph Kabila, et crée son propre parti, l'Alliance pour l'alternance et le progrès en RDC, APP en sigle. Il a fait cette déclaration hier mercredi à Radio Kapi. Ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila, ancien ministre de l'ESU et député national honoraire, Théophile Mbemba affirme n'être ni de l'opposition ni du pouvoir. Il dit militer depuis toujours pour le changement. On écoute Théophile Mbemba au micro d'Alain Hirung.
Notre détermination, c'est d'aller vers le changement et c'est de prêcher justement dans la classe politique congolaise aussi une autre façon de faire la politique. Parce que j'estime qu'il est grand temps que dans la culture politique congolaise, qu'on intègre le fait que l'alternance, c'est une donne importante. Parce que par l'alternance démocratique, il y a de nouveaux projets de société qui arrivent, il y a de nouvelles idées, il y a la relève qui se fait, mais dans la continuité de l'État, en corrigeant ce qui a été mal fait, et puis en veillant à construire pour l'avenir. Donc c'est pour cela que nous tenons à cette vision d'alternance démocratique et au bout de compte, ça vous permet aussi d'avoir une alternative économique. Avec l'alternance démocratique, on a une alternative économique et avec l'alternative économique, il peut avoir une croissance, en fait des réformes qui amènent à une croissance inclusive, résiliente et c'est le fruit de cette croissance distribuée convenablement auprès de la population congolaise suivant l'intérêt général. À ce moment-là, on peut réduire les inégalités dans la société, lutter contre la pauvreté et l'État joue le rôle aussi de celui qui renvoie l'ascenseur social pour veiller à ce que ces inégalités ne se créent pas dans la société congolaise.
Actualité internationale.
Le Niger demande à 8 ex-dignitaires du régime hutu-rwandais responsable du génocide de 1994 de quitter le pays. Un arrêté d'expulsion a été pris lundi 27 décembre dernier. Il porte la signature du ministre de l'Intérieur, Amadou Adamou Souley. Une expulsion justifiée par des raisons diplomatiques alors que ces personnes avaient récemment été accueillies dans le pays. Ils ont interdiction permanente de séjour dans le pays et ont 7 jours pour quitter le Niger.
L'invité.
Dans le cadre d'évaluation des activités culturelles de l'année 2021, nous allons à Bénin pour accueillir un artiste humoriste, Luis Christian El Kaboué, qui va nous parler des activités culturelles humoristiques réalisées en ville de Bénin pendant cette année, les contraintes ainsi que les projets. Étant humoriste, il ne manquera pas aussi de nous emballer dans l'humour pour bien clôturer l'année 2021. Christian El Kaboué s'entretient avec Marco Marofimbo. Suivez.
Monsieur Christian El Kaboué, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Dans votre domaine humoristique, comment les activités ont évolué sur le plan général ?
Généralement, je dirais que nous n'avons pas atteint même 50% des activités prévues pour cette année, vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui ne nous ont pas permis à bien évoluer, entre autres la Covid, l'insécurité. Et aussi, je peux dire, manque d'infrastructures appropriées pour la production des événements humoristiques et autres.
Quels ont été encore les grands défis auxquels vous avez fait face?
Les grands défis, je dirais que je peux retourner sur ces manques-là d'infrastructures d'abord, parce que c'est la plus grande des choses qu'il faut aux humoristes pour se produire, ou même aux comédiens pour exercer leur métier. Déjà, on sait que la Covid, l'insécurité, peut-être les autorités s'en chargent et tout. C'est une affaire de tous d'abord, mais côté infrastructure, je dirais que ça c'est purement le gouvernement et les ministères de la culture et des arts, parce qu'on n'en a pas à Bénin. C'est pas comme vous pouvez être à Goma, à Kinshasa, où vous avez l'Institut français par exemple, les alliances françaises, où les gens vont et s'expriment facilement. Ici, nous sommes délaissés comme ça. On n'a rien du tout. On se faufile dans des restos-bars, dans des endroits où les gens prennent de la boisson. On se faufile là-bas pour s'improviser deux fois. Et pour nous, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas approprié pour quelqu'un de ces domaines.
Si on peut revenir en arrière, vous avez organisé quel type d'activité dans l'année 2021 ?
L'année 2021, à part les activités des jeudis qu'on a l'habitude d'organiser, avec mon manager qui est aussi un culturel, Kizo, que je salue en passant, avec lui, on a eu chaque jeudi à se produire à Ishango, dans le but juste d'échanger les narratifs, de se déstresser, vendre positivement l'image de la ville de Bénin. Parce que même ailleurs, quand vous êtes invité, on vous présente quelqu'un qui vient de Bénin, tout de suite les gens ont pitié de vous, on dirait que vous êtes affamé, on dirait que vous êtes mort, on veut changer cette image-là, on veut vendre positivement l'image de Bénin. Alors on se produit chaque jeudi. jeudi dans Cheka Oviovio, bon, qui n'est plus Cheka Oviovio, qui est Katas Day Vibes, avec les artistes locaux. On essaye de leur propulser aussi en avant. À part ça aussi, il y avait des prévisions, comme je l'ai dit au début. On n'a même pas atteint 50% de notre prévision, parce que deux fois, on prévoyait faire de grands galas. Déjà, cette année, on ne l'a pas fait, le gala Cheka Oviovio, suite à des contraintes un peu à gauche, à droite. On n'a pas fait parce que aussi, deux fois, vous prévoyez le faire à telle date. Il y a incursion, vous prévoyez faire à telle date. On vous dit encore 5e variante ou 6e, je sais pas. On en est à combien déjà? Bon, une autre variante sort de Covid. Alors, les gens qui sont à l'extérieur, par exemple, nos amis humoristes sur Lubumbashi, sur Goma, sur Kinshasa, quand vous les invitez, la seule chose qui vous dit, mais mon cher, là-bas, on tue les gens. Moi, je ne saurais pas venir là-bas. C'est vrai, on tue les gens. Si on tuait vraiment les gens, on serait aussi morts. Vous voyez un peu, c'est que on essaye aussi de vendre positivement l'image de notre ville. Dans ce sens-là, peut-être je peux anticiper, je demanderai à nos autorités de continuer encore à renforcer la sécurité. Parce que sans cela, nous serons aussi contraintes et obligés de quitter la ville et aller s'installer ailleurs. Et là, c'est la culture de la ville de Beni qui va périr.
Alors, avant de terminer, Christian, attaque humoriste pour clôturer cette année. Comment vous allez faire rire la population de Beni?
Ah, pour clôturer cette année, je ne sais pas par où commencer, mais le truc c'est que, vous savez, nous sommes différents les uns des autres. Malgré qu'on est noir, il y a toujours une différence. Je vais prendre quelque chose qu'on connaît plus, l'étonnement par exemple. Quand quelqu'un s'étonne en Europe, on sent tout de suite que c'est un Européen. Même si on ne sait pas pourquoi il le fait, on a envie de le faire avec lui. Quand quelqu'un s'étonne, il dira « Waouh ! Oh la vache !» On ne sait pas ce que la vache a fait. C'est comme ça, tu vois, chez eux. Et quand on va en Amérique, et Dada, les Américaines, quand elles s'étonnent, tu te poses la question, tu te dis « Peut-être qu'elle passe nuit au ciel, elle rentre le matin, tu vois ou pas ?» C'est un truc du genre « Oh my God !»« Oh my God, I can't believe !»« I can't believe !»« Wonderful !»« You are so cute !» On ne sait pas si c'est quoi, tu vois, ça, c'est comme ça. On est chez nous. Au Congo, je vous ramène à Bukavu. Quand quelqu'un s'étonne, on dirait qu'il chasse des poules, tu vois. C'est Emma, tu vois. On se pose la question, comment cette différence-là? Je vous ramène à Beni. Quand quelqu'un s'étonne, tu sens l'agressivité dans l'étonnement. Là, quelqu'un qui va, boum! Pourquoi ça? Pourquoi, tu vois? Tamien, Badi. Ça nous suit même à l'école.
Monsieur Christian, merci beaucoup.
Voilà. C'est la fin de cette édition de 7 heures, ma dernière édition, mon dernier journal de 7 heures de 2021. Je reviens à 8 heures, pour le dernier journal de 8 heures de cette année 2021. Mais n'oubliez pas, je serai encore là jusqu'à 12 heures pour le dernier journal de 12 heures pour moi en 2021. Merci de nous avoir suivis.